Chapitre 4. Arrivée de Million. La division supérieure, comprenant 25 élèves, prenait sa leçon de dessin dans une petite salle très claire, affectée spécialement au dessin et à la musique. Des fusains très noirs, des paysages au crayon un peu trop mignotés, voire même des peintures à l'huile, travaux des élèves d'antan, couvraient les murailles gris pâle où s'accrochaient ci et là quelques masques de faune en plâtre, quelques fragments de chapiteaux et d'acanthes. Un piano occupait l'angle opposé aux fenêtres et il était surmonté d'une panoplie originale faite de guitares, de banjos américains, entremêlés de rubans éclatants et de franges d'or. Le professeur, un peu nerveux, car il était artiste et n'aimait pas le vent d'est qui soufflait depuis la veille, le professeur se promenait de long en large devant les petites tables où s'appuyaient les planches à la vis. On essayait de faire du lavis, on y réussissait guère. On mouillait son papier à grande eau et le papier se soulevait en vagues moutonnées comme le lac là-bas sous la bise. Ferdine frottait avec acharnement une grande tache, pareille à un îlot sur le fond gris-bleu de la teinte générale, et la tache allait s'élargissant sous le pinceau manié comme un balai. Ne frottez pas, murmura près d'elle la chefesse des piocheuses, Isaline Monnier, cette grande fille gauche et myope, à qui néanmoins tout réussissait. Vous allez trouer votre papier. Quand le lavis sera sec, la tache se verra moins. Oh, le croyez-vous vraiment ? Dit Ferdine, se penchant de côté pour examiner le travail de sa voisine. Quelle belle teinte unie ! Comment vous y prenez-vous pour n'avoir pas de tache ? Silence, mesdemoiselles, fit le professeur d'un ton acerbe. Je ne tolérerai aucun bavardage. Mademoiselle Monnier, votre conduite me surprend. Vous n'êtes pas une nouvelle venue et vous connaissez les règles. Mais, monsieur, s'écria Ferdine, qui devint rouge comme un coucher de soleil. Isaline avait la bonté de m'expliquer comment il faut s'y prendre pour n'avoir pas de tâche. Vraiment, répondit le professeur avec ironie. Dans ce cas, mademoiselle Isaline m'obligera en donnant la leçon à ma place. Les yeux de Ferdine lancèrent des éclairs. Elle se tourna vivement vers sa conseillère, comme pour l'engager à protester, mais celle-ci, penchant la tête pour voir son dessin de plus près, mit discrètement un doigt sur ses lèvres. « C'est abominable !» chuchota Ferdine, qui apprenait d'un coup deux choses nouvelles. Qu'un professeur, même à bonne grâce, peut être de mauvaise humeur, et qu'une élève, même la meilleure, même cette Isaline qui avait tous les talents, doit apprendre à supporter en silence une réprimande injuste. Les lèvres frémissantes, les sourcils froncés, Ferdine trempait son pinceau à l'aventure et laissait tomber des cascades sur son malheureux lavis quand la porte fut ouverte lentement, majestueusement, et l'on sut que mademoiselle Audembert entrait. Il n'y avait qu'elle pour ouvrir les portes de cette manière royale. Les têtes se tournèrent. On aperçut derrière sa robe de soie grise, une robe moins magnifique que celle du jour de rentrée, mais très cossue cependant, on aperçut derrière le coude de la directrice une jeune fille insignifiante, ni grande ni petite, la taille plate, les cheveux d'un blond verdâtre et l'air horriblement intimidé. Mesdemoiselles, dit la directrice de sa voix cadencée, je vous présente une nouvelle compagne à laquelle vous souhaiterez la bienvenue aussitôt que votre leçon sera terminée. Mademoiselle Louise Miserlet. La nouvelle élève, qui semblait marcher dans un brouillard, tressaillit en entendant son nom, ouvrit la bouche comme pour y répondre, devint plus rouge encore et s'arrêta court. « Par ici, ma chère enfant !» dit mademoiselle Audembert, qui s'avançait avec un élégant froufrou. « Il y a une place vacante près de la fenêtre. Pour aujourd'hui, comme vous n'êtes encore pourvu ni de papier ni de pinceau, vous assisterez à la leçon en spectatrice. » Elle se retourna et vit la pauvre Louise clouée au parquet par sa timidité et lui adressa un petit signe de tête impatient. Louise se hâta, pareille à un gros bourdon effaré, prit son élan tout droit vers mademoiselle Audembert, heurta la petite table légère qui se trouvait au bout de la rangée. Une boîte à crayons tomba, éparpillant son contenu, une planche à la vis glissa ensuite et le verre d'eau la suivit, inondant les genoux de Ferdine. car il était à Ferdine tout ce mobilier roulant.
« Oh, ne dites pas que c'est moi !»
chuchota à son oreille une voix qui tremblait. Et tandis que Ferdine, haussant les épaules un peu dédaigneusement, secouait sa robe trempée d'eau bleue, la maladroite reprenait sa course et allait se réfugier derrière les amples plis de la robe directoriale dans l'embrasure de la fenêtre. Monsieur Lépine, penché sur le dessin d'une élève, à l'autre bout de la salle, n'avait pu discerner la cause de l'accident. Mais quand il entendit les crayons rouler, l'eau s'égoutter en petits ruisseaux, il se redressa fort irrité et vint à grands pas jusqu'au lieu du désastre. Mademoiselle Audembert en fit autant, à petits pas, et elle mit son lorgnon sur son nez. « Réellement, mademoiselle Arvoine, dit le professeur, il n'est pas permis d'être aussi maladroite. » « Je suis bien de cet avis, » répondit Ferdine à demi-voix, tout en épongeant sa robe avec son mouchoir. Les nouvelles venues ont en général des façons assez gauches, fit la directrice dans le désir d'apaiser M. Lépine et de donner une petite leçon à l'élève. Mais tout cela s'adoucira sous l'influence de bonne grâce. Voilà un lavis abîmé, poursuivit le professeur, touchant du bout des doigts la feuille de papier flasque comme un chiffon. Il était déjà abîmé, dit Ferdine. « Quant à moi, je ne le regrette pas du tout. Je serais même bien aise de le recommencer. » M. Lépine consentit à sourire à cause de Mlle Audembert qui semblait mal à l'aise. On voyait bien que Ferdine n'était point impertinente, mais qu'elle disait simplement tout ce qu'elle pensait. Un quart d'heure plus tard, la leçon étant terminée et le professeur parti, l'infortunée petite Miserlet subit la cérémonie de bienvenue dont Mademoiselle Audembert avait parlé. Isaline, comme doyenne de la classe, devait présenter et nommer toutes les élèves à cette nouvelle camarade. Elle s'acquitta de son devoir aussi rapidement que possible, car ses présentations abrégeaient l'heure délicieuse de midi à une heure où l'on faisait ce qu'on voulait, une lecture sous les tilleuls ou la promenade confidentielle, deux à deux, sous l'avenue. Louise Miserlet, debout dans son coin, les yeux baissés, se mordait les lèvres, balbutiait des mots confus, froissait d'une main tremblante sa robe de lainage marron semée d'éclairs jaunes et levait de temps à autre un regard effarouché vers ses futures compagnes. Elle semblait partagée entre le désir de fondre en larmes et celui de s'enfuir par la fenêtre ouverte derrière elle. Finalement, choisissant le premier parti, elle tira de sa poche un immense mouchoir, juste comme ceux que Mademoiselle Caton me faisait tourler, songea Ferdine avec sympathie, et y enfouit tout son visage. « C'est le mal du pays, je suppose, » dit Isaline, regardant autour d'elle. Mais les autres jeunes filles haussèrent les épaules, s'éclipsèrent. La nouvelle élève était décidément trop peu intéressante, trop niaise, trop mal habillée. Isaline elle-même, embarrassée, car elle était gauche aussi, bien que d'un autre genre de gaucherie, se hâta de nommer Ferdine Arvoine, la dernière de cette petite procession qui, depuis 5 minutes, défilait devant Louise. Après quoi, elle les laissa en tête à tête et courut à la recherche de son amie intime. « Pourquoi pleurez-vous ? » demanda Ferdine, tirant un coin du gigantesque mouchoir. « Oh, c'est vous ! » dit Louise, hasardant un regard parmi les plis de la solide toile de fil que ses deux mains tenaient collées à son visage. « C'est vous ? Elles sont toutes parties !» ajouta-t-elle, risquant un second coup d'œil autour de la salle. « Elles sont parties, les moqueuses !»« Pourquoi pleurez-vous ? » répéta Ferdine. « Oh, je ne sais pas, je pleure très facilement. Tout à l'heure, si ce monsieur fâché m'avait dit un mot seulement, j'aurais éclaté. Mais que vous lui avez donc bien répondu ? Quel courage ! Et de quel petit ton drôle vous parliez ? Vous me défendrez toujours, n'est-ce pas ?»« Ah, dit Ferdine, je ne m'engage pas à prendre sur moi toutes vos maladresses. »« Mais vous serez mon ami ? Oh, promettez-moi que vous serez mon ami ! « Vous êtes bonne, je l'ai vue tout de suite. Les autres sont d'affreuses moqueuses. Cette blonde, surtout, qui a le visage blanc comme de la craie et une robe bleu marine. Elle tient sa tête comme ceci et elle agite ses mains pour faire voir qu'elles sont petites. » Tiens, dit Ferdinand riant, vous avez un talent d'observation. Au geste que vous venez de faire, j'ai reconnu Léa Gaillère comme si elle se tenait devant moi. Je ne l'aime pas non plus. C'est-à-dire, fit-elle, regrettant ce mot aussitôt, elle ne m'est pas sympa. Non, je ne parlerai point d'elle. Siméon me gronderait. Qui est Siméon ? Demanda la petite Miserlée. Je vous dirai cela plus tard. Si nous sortions, voyez comme le soleil brille sur la terrasse. Oh oui, sortons ! Cria la nouvelle avec enthousiasme, se suspendant au bras de Ferdine. Seule, je n'aurais pas bougé d'ici et je serais restée à pleurer. Je puis pleurer très longtemps, 4 heures, 5 heures, sans m'arrêter. Quel visage vous devez avoir après cela ! S'écria Ferdine, trouvant que les larmes n'embellissaient point Louise Miserlée. Françoise me bassine avec de l'eau de Cologne, et même elle dut une fois me mettre des cataplasmes, tant j'avais les yeux enflés. Grand-mère pleure beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'elle reste parfois une demi-journée avec son mouchoir sur ses yeux, mais à son âge, on n'a plus guère de vraies larmes qui mouillent, tout au plus quelques-unes très petites, comme des pommeaux d'épingle. « Ce doit être gai chez vous, » dit Ferdine. Oh, nous étions très heureuses, grand-mère, moi et Françoise. Mais quelqu'un vint dire à grand-mère que j'étais trop ignorante, trop sauvage et qu'il fallait me mettre en pension. Notre maison s'appelle dans le pays Château Pointu. J'en ai une photographie, je vous la montrerai. « Oh, Ferdine !» s'écria-t-elle, lui serrant le bras avec ardeur. « C'est bien Ferdine qu'on vous appelle, n'est-ce pas ?» Je vous raconterai toute ma vie, comme dans les livres, quand deux étrangers se rencontrent au milieu des pampas ou sur le bord d'une île déserte. Je vous parlerai de mon pauvre papa qui est mort aux Antilles, où il était allé pour faire sa fortune. Et vous me raconterez aussi votre vie depuis le commencement. Allons nous asseoir là-bas sur le banc. Elles avaient franchi la porte-fenêtre qui s'ouvrait sur la terrasse et elles descendaient à petits pas vers l'avenue, Louise ayant son bras passé autour de la taille de Ferdine, sa joue collée à l'épaule de Ferdine, ses yeux levés vers les yeux de l'amie nouvelle qu'elle admirait passionnément. Et notre Ferdinette, trouvant cette attitude un peu trop sentimentale, ne savait quelle contenance prendre, sous les regards railleurs des jeunes filles éparpillées au soleil en petits groupes d'amis intimes. Quelques-unes donnaient à manger à deux pans perchés sur la balustrade de pierre, d'autres, descendant par des marches gazonnées jusqu'à un carré de pelouse, essayaient les raquettes du lawn tennis, d'autres se balançaient sur l'escarpolette et toutes s'arrêtaient, se retournaient pour voir passer les deux nouvelles, Ferdinand Arvoine avec ses longues nattes de cheveux noirs, son air fier, un peu sauvage, et Louise Miserlée, le visage gonflé de larmes, la tournure étrange et vieillotte, dans sa robe coupée sur un patron disgracieux. Elles s'assirent derrière un gros arbre dont le tronc les dérobait un peu à cette curiosité. Louise prit la main de Ferdine et la pressa contre sa joue. « Soyez raisonnable, » dit Ferdine qui n'aimait pas beaucoup ces démonstrations et n'y était point habituée puisqu'elle avait été élevée avec des garçons. « Nous pouvons être très bonnes amies sans tant de gestes. » Louise croisa docilement les mains sur ses genoux. « Je ferai tout ce que vous voudrez, » dit-elle. « Vous m'apprendrez à me conduire. Je ne penserai plus qu'à vous et je vous demanderai conseil pour toute chose. » « Oh, n'en faites rien !» s'écria Ferdine, fort alarmée d'une responsabilité pareille. « J'ai moi-même tout à apprendre. J'arrive de mon village, aussi novice que vous. Je ne connais pas les usages et je découvre que le monde est très grand, les gens peu charitables, les jeunes filles très compliquées. Nous étions si simples là-bas, nous disions tout ce que nous pensions. Ici, elles ont un genre, chacun le sien. Isaline Monnier elle-même est un peu poseuse. Et personne ne m'aide à me débrouiller, car Siméon n'entend rien aux affaires des demoiselles. Quand je lui raconte nos histoires, il ne fait qu'en rire et me répond « La femme est un mystère ». « Oh, que j'aime à vous entendre parler !» murmura Louise avec un petit gémissement de tendresse. « Vous dites des choses si intéressantes, et quand je songe que cela ne fait que commencer... » Ferdine se sentait mal à l'aise, comme si elle eût accepté indélicatement une chose qui ne lui était pas due. Elle allait protester quand une ombre glissa autour du gros tronc, une main fine, un poignet blanc, une manche bleu marine fermée de petits boutons de nacre s'allongèrent derrière elle et des doigts touchèrent Louise Miserlet à l'épaule. La jeune fille tressaillit, devint rouge comme une flamme en reconnaissant Léa Gaillère et d'un brusque mouvement lui tourna le dos.
« Je vous ai cherché partout !» fit Léa du ton le plus aimable.
« Mademoiselle Audimbert tient particulièrement à ce que nous nous occupions des nouvelles. »«
N'êtes-vous pas vous-même une nouvelle ?» demanda Ferdine, mettant aussitôt flamberge au vent.
« Comment donc ? Voilà une semaine que je suis à bonne grâce, et d'ailleurs, je connaissais le pensionnat depuis des années par mes sœurs !» répondit Léa d'un ton de froide condescendance. Elle avait déjà découvert que son amabilité était perdue auprès de Ferdine et elle ne faisait plus de frais inutiles.
Avez-vous vu les pans ? Reprit-elle, s'asseyant à côté de Louise et tendant son bras derrière elle au long du dossier, sur quoi Louise se retira avec une moue plus près encore de Ferdine.
Avez-vous déjà vu les pans ? Répéta-t-elle un peu plus haut, comme si elle avait eu affaire à une sourde ou à une idiote.
« Oui, je les ai vus !» répondit Louise, baissant la tête, en petite bête campagnarde, fort maussade et obstinée.
« Aimeriez-vous à leur donner du pain ? Ils le prennent très bien dans la main. »«
Non, merci. »«
Si vous désirez vous balancer sur l'escarpolette, je dirai à Laure Grisel de vous céder la place. »«
Non, merci. »«
Venez avec moi jusqu'au bout de la terrasse et je vous montrerai le jet d'eau. »
« Non, merci. »«
Qu'elle est sotte avec ses non merci !» pensait Ferdine. « Elle pourrait, pour varier, répondre comme Ernest, « Fichez-moi la paix !»« Mais je suppose que cela ne se dit pas à bonne grâce. »«
Répondez pour moi, je vous en supplie !» chuchota Louise, qui reculait toujours et se trouvait presque blottie dans l'ombre de Ferdine.
Elle n'eût pas eu l'air plus effaré et malheureux si un serpent avait été assis à côté d'elle sur le banc.
« Nous sommes très bien ici et nous préférons y rester, » dit Ferdine, s'efforçant d'imiter le ton froid de Léa Gaillère, mais sans y réussir.
Ferdine, par bonheur, réussissait peu dans l'imitation. Son naturel perçait toujours.
« Oh, ce n'est pas à vous que je m'adressais !» fit Léa d'un air impertinent, regardant Ferdine comme si elle s'apercevait à l'instant de sa présence.
Ferdine rougit de colère, pensa à Siméon, à sa demi-heure de réflexion de la veille, et se contint. Mais Louise, alors, qui peu à peu avait tiré de sa poche son immense mouchoir, fit une diversion en fondant en larmes. Impatientée, Ferdine se leva en haussant les épaules et s'éloigna du banc.
« Vous ne consolez donc pas votre amie ?» demanda ironiquement Léa qui la suivit.
« D'abord, elle n'est pas mon amie, » répliqua Ferdine avec vivacité. Puis elle tourna la tête, vit la pauvre Louise abîmée dans son mouchoir et se repentit de sa défection.
« Il n'y a pas une heure que nous nous connaissons, mais je crois que je l'aimerai, » dit-elle.
« L'amitié, coup de foudre !» fit Léa, perlant un petit éclat de rire.
« Avouez, Ferdinand Arvoine, que vous saviez avant nous l'état des choses. »«
L'état des choses ? Qu'entendez-vous par là, Léa Gaillère ?»«
Ne faites pas l'ignorante. Vous aviez des renseignements. Moi, je viens d'en tirer, et de très intéressant, de Lise, la femme de chambre de notre étage. Elle bavardait avec la bonne qui a amené Louise Miserlet. Elles sont du même endroit, ces deux bonnes. » Lise connaît la famille Miserlet et leur maison qu'on appelle Château Pointu et la grand-mère qui est une personne extraordinairement mélancolique. Voyons, Ferdine, on assure que vous êtes un prodige de droiture. Avouez que vous saviez tout cela.
Assurément, car Louise vient de me le raconter.
J'en étais certaine, exclama Léa Gaillère. L'amitié coup de foudre s'explique maintenant. Vous nous avez toutes devancées et ces demoiselles rageront quand je leur aurai dit ce qu'il en est.
Mais aussi, peut-on bien s'appeler Miserlet et porter une robe de lainage à 1,50 franc le mètre quand on est l'héritière de plusieurs millions ?» Ferdine, stupéfaite, ouvrit de grands yeux et s'arrêta court. « Louise Miserlet ?»« Elle-même. Ne prenez pas la peine d'ouvrir de tels yeux. Vous le saviez. Vous voilà établie amie intime et grande favorite de Mademoiselle Million, et je vous souhaite bien de l'agrément. Allez la consoler, allez-y bien vite. Comment pouvez-vous laisser si longtemps Million dans les larmes ?» « Et c'est donc là, dit Ferdine, la raison de vos empressements, je vous cède la place de grand cœur. » Pleine de dégoût et d'indignation, brûlant des désirs de se disculper, de mettre assez de distance entre elle et Million pour que personne ne pût la soupçonner de machination vile, elle courut vers l'autre bout de la terrasse sans jeter un seul regard derrière elle. Léa Gaillère se rapprocha du banc. « Ne pleurez pas, » fit-elle d'une voix insinuante. « Vous serez très heureuse ici. Vous aurez autant d'amis que vous voudrez. » Soudain, Louise releva la tête. Point du tout jolie, la pauvre Louise, avec ses joues marbrées de larmes, ses paupières enflammées, ses yeux tout petits dans l'enflure, avec ses cheveux de teinte indécise collés sur le front et les coins abaissés de sa bouche lamentable. « Allez-vous-en !» cria-t-elle d'une voix toute mouillée, comme lorsqu'on a un violent rhume de cerveau. « Je ne veux qu'une amie, c'est Ferdine. Je l'aime, et vous l'avez chassée, je vous déteste !»